C'est pas évident de passer de l'ombre à la lumière ici, c'est assez violent. On va faire avec. Très bien, donc je vais vous présenter, j'ai été présenté donc j'ai pas besoin de revenir dessus. Je vais vous présenter donc l'enquête sur les grands lecteurs numériques, c'est comme ça qu'on les appelle, qu'on a réalisé il y a quelques mois. Maintenant, l'objectif de cette enquête était de mettre en évidence un effet du numérique. Vous savez que le numérique est arrivé depuis quelques années dans nos vies. Et le questionnement était donc la mise en évidence d'un effet du numérique sur les pratiques de lecture et sur les manières de lire. Donc, qu'est-ce que ça fait concrètement d'avoir des smartphones, des tablettes, des liseuses, des ordinateurs sur nos pratiques quotidiennes de lecture. L'enquête est une enquête qualitative, comme ça a été précisé, auprès de différentes catégories de grands lecteurs. On a ciblé vraiment des gens qui mobilisaient, utilisaient ces technologies-là. On a mené une quarantaine d'entretiens pour réaliser cette enquête avec différentes catégories de lecteurs, donc des technophiles, des professionnels et puis des lecteurs de littérature. Donc technophiles, des informaticiens, les professionnels, ça a été des chercheurs, ça a été des consultants, des gens qui avaient un usage professionnel de ces outils. Et puis sur l'aspect littéraire, c'était des gens qui avaient plutôt des liseuses, voilà. Donc on s'est focalisé ensuite, vu l'étendue du champ finalement, on s'est focalisé sur deux grands types de lecture. La lecture d'information, donc de la presse numérique, qui était quelque chose de très fort dans les pratiques, très structurant, en tout cas très présent chez différentes catégories de personnes qu'on a rencontrées. Donc je vais présenter les effets du numérique sur ces pratiques-là, la lecture d'information. Et puis deuxième focale sur la lecture à caractère littéraire. Donc la lecture de romans, notamment. Donc l'idée, en tout cas l'intention qui était la nôtre, était d'ancrer le réel dans les pratiques, dans des pratiques qui sont sujettes à beaucoup de discours. À la fois des discours enchantés et puis des discours qui sont critiques ou des discours qui sont apocalyptiques même sur le devenir de la lecture et les effets néfastes de ces nouvelles technologies. Alors j'aurais peut-être dû faire un PowerPoint, je ne savais pas que c'était aussi moderne. Mais bon, en tout cas, voilà, j'aurais pu vous montrer ça. Cette enquête, elle a été faite. D'ailleurs, j'ai pas présenté avec qui, ni toi d'ailleurs. Elle a été faite avec Gérard Mauger, qui est un sociologue émérite au CNRS, et puis Paul Godric, qui travaillait chez nous, Aristat. Donc, ça, j'aurais dû le présenter, mais c'est pas grave. En gros, ce qu'on constate, c'est qu'il y a deux camps très 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 très, très opposés. L'un qui reproche aux technologies numériques de dénaturer la lecture, de favoriser la domination de compagnies du web sur les goûts et les pratiques de lecture. Donc tout un ensemble de discours comme ça très très de déploration, quoi, que l'auteur se disparaît, la lecture devient fragmentée, ça favorise le piratage, enfin voilà, bon, c'est tout un ensemble de choses de ce type-là. Et puis de l'autre côté, on a un discours extrêmement enchanté, la révolution numérique, un nouveau monde arrive, c'est la démocratisation de la lecture, c'est l'accès généralisé, ce qui n'est pas faux, en tout cas en potentialité, à un ensemble de biens culturels qui autrefois étaient confinés à certains espaces sociaux. Il y a des nouvelles façons de lire, il y a de la créativité, il y a de la flexibilité cognitive. Enfin bon, voilà, il y a plein de discours comme ça, très, très plein d'emphase et très enchanté. Bon, la question, en tout cas en sociologue, quand on est confronté à ce genre de discours, c'est toujours de se poser, alors en langage sociologique, c'est l'intérêt à tenir ce discours. Plus simplement, c'est pourquoi ces gens tiennent-ils des discours aussi enchantés ? Surtout quand la plupart de ces discours, la plupart, c'est-à-dire que je prends quelques précautions quand même, reposent sur des bases empiriques qui sont quasi nulles, hormis l'auto-observation de ses propres pratiques, naturellement. Donc l'idée de l'enquête était de ce que je disais, donc ancrer dans le réel ce rapport, enfin cet effet du numérique, au-delà de ces grands discours qui disent ce que qu'est le numérique dans une version positive ou dans une version négative. Voilà. L'enquête sous cet angle-là a un caractère assez décevant finalement. Non pas pour la qualité du travail réalisé, ça je ne suis pas juge, mais je vous laisserai juge plus tard. Surtout décevant parce qu'elle montre que le social reste le social, que les logiques sociales ont une certaine matérialité, sont des logiques qui sont pérennes, qui sont inscrites dans la matérialité des outils, dans la matérialité des corps. Des esprits. Et donc, ce qu'on constate quand on interroge les personnes qui utilisent ces technologies, c'est qu'il n'y a pas de tournant radical dans les pratiques de lecture. Donc, ces logiques sont toujours à l'œuvre. C'est-à-dire que si vous regardez même à un niveau empirique, en vous reposant sur tout un ensemble d'études qui sont menées par le ministère de la Culture sur la distribution sociale des pratiques cultivées, des pratiques culturelles, bizarrement, dans un échantillon même de 40 personnes, les lignes de force sont identiques. Quoi. Voilà. Nos CSP+, lisent plus que les CSP- de notre échantillon, les femmes lisent plus de romans que les hommes dans notre échantillon. Donc on retrouve un niveau micro, qualitatif, ce qu'on retrouve dans les grandes tendances des enquêtes statistiques. Bon. Voilà, bon, c'est aussi qu'il y a quand même une certaine. Les méthodologies qualitatives sont des méthodologies robustes, même si on a tendance à plus croire le chiffre que quelques dizaines d'entretiens. Donc, voilà. Donc, et puis ensuite, ce sont des pratiques qui restent extrêmement prosaïques. Donc prosaïque au sens où, dans son versant enchanté, c'est-à-dire le numérique, la révolution, on peut lire quand on veut, ce qu'on veut, c'est l'ouverture du champ des possibles, la démocratisation, enfin vous voyez, cette espèce de discours là que vous devez connaître mieux que moi même. Bon, finalement, quand on interroge les gens sur ce qu'ils font concrètement avec leurs outils numériques, ça reste très très terre à terre. Vous allez voir qu'on va sombrer dans le prosaïsme le plus désespérant. Voilà. Deux, trois choses. Un, ce qu'on constate pour comprendre ces pratiques de lecture et l'effet du numérique, c'est qu'il faut tenir compte, alors je vais vous faire grâce de ça, de l'histoire en fait de l'informatique. Voilà, ce sont des pratiques qui sont extrêmement dépendantes de l'introduction des technologies informatique comme ce genre de choses modernes, les ordinateurs, et que ça a été une préparation finalement à l'arrivée de la lecture sur écran, que ça soit sur tablette ou sur liseuse. Voilà, il y a depuis les années 80 l'expansion de ces technologies et on passe beaucoup de temps à lire maintenant du texte sur Word. Bon, selon les milieux sociaux, ça s'est fait plus ou moins rapidement, mais en tout cas, on voit qu'il y a il y a une socialisation, une pré-socialisation à la lecture numérique qui s'est faite par l'introduction de l'ordinateur dans le milieu, la généralisation de l'ordinateur dans les milieux professionnels. Ensuite, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un effet très fort, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, ça fait des parties un peu abruptes à lire dans le rapport et dans le livre, mais qu'il y a un effet très fort des modifications du champ de la presse et du champ de la production, enfin, littéraire au sens de la production. Quoi, voilà. Donc ce qu'on voit, par exemple, donc ces effets ont plutôt influencé très fortement les pratiques des lecteurs. Donc, pour la presse, vous avez, en fait, il y a tout un ensemble de modifications qui se sont faites. Alors, je vais un peu vite aussi. Si je parle trop, il faut me rappeler à l'ordre. Il y a eu tout un ensemble de modifications qui se sont faites, notamment avec la généralisation du web, avec les techniques de commercialisation et de rentabilisation du web. Bon, il suffit de penser à Google, qui est un moteur de recherche, entre autres, de faire des voitures et d'autres trucs, mais qui, finalement, n'est pas du tout une entreprise du web, est une entreprise publicitaire. Bon, voilà. Donc, ils vendent de la publicité, c'est leur modèle business. Et ce modèle-là s'impose aussi dans la presse à l'heure actuelle. D'ailleurs, il y a eu une petite montée en puissance de cette dimension publicitaire dans la presse. Là, moi, je la lis aussi beaucoup sur mon smartphone. Mais connaissant ce qui se passe dans la presse, c'est pas étonnant qu'il y ait cette monétisation quasi outrancière d'ailleurs, de ces systèmes-là. Et ça impose de nouvelles façons de produire l'information, de produire la presse. Bon, il suffit juste, pour aller assez vite, de penser au modèle des breaking news là, qui s'impose dans toutes les chaînes de télévision. On en a eu un exemple récemment dans les Alpes. Là, bon, l'avion est écrasé, il ne se passe plus rien. Comment on fait pour maintenir l'événement et envoyer toutes les quarts d'heure une nouveauté qui n'est pas une nouveauté. Et donc cette espèce de mode de production finalement de l'information influence les lectures très fortement. Ce qu'on constate pour les lecteurs, donc là je dis ça, je viens vers les lecteurs, c'est qu'il y a un engouement très fort pour la presse numérique. Alors, s'il y a quelque chose qui est assez transversal à l'ensemble de notre échantillon, c'est bien la lecture de la presse numérique et notamment avec la diffusion de ces engins qui s'appellent des smartphones. Voilà. Ça marque un avant et un après. Hein. Quand on est passé du vieux Nokia à touche à ça, qui est en fait un portail sur Internet, il y a une espèce d'appel d'air. En fait, l'appel d'air, on va le retrouver aussi dans les pratiques littéraires avec les liseuses, mais on verra sous une autre forme. Donc il y a une espèce d'appel d'air, d'engouffrement des lecteurs dans ces nouvelles technologies, et il y a un des effets, en tout cas, que ça provoque, c'est que ça entraîne une baisse de la fidélité à un titre. Voilà. C'est-à-dire qu'en format papier, sans numérique, la tendance est plutôt à lire un seul titre, voire, selon certains milieux, on va en lire plusieurs, dans d'autres plus spécialisés, il va y avoir naturellement des revues de presse, etc. Mais le lecteur ordinaire était plutôt était plutôt fidèle à un titre. Or là, avec l'introduction du numérique, ce que racontent les gens, c'est que ça a ouvert complètement leur champ du possible. On va lire le Financial Times, on va lire New York Times, on va lire le Figaro, Libération, et puis pour certains lecteurs, quelques organes néo-anarchistes, de je sais pas trop quoi. Bon, bref. Donc il y a une ouverture comme ça qui est très très forte et très présente dans les discours des lecteurs. Deuxième effet, c'est que cette ouverture du champ des possibles au niveau de la lecture d'informations confère à la lecture un sentiment de plus grande objectivité. C'est-à-dire, en fait, même s'il est faux, hein, mais disons que ça confère à tout et chacun le sentiment de pouvoir recouper les sources d'informations. C'est-à-dire que c'est assez marrant, parce que d'un côté, vous avez des journalistes qui peuvent de moins en moins faire le métier de journaliste et qui sont juste des producteurs de lignes d'information non contrôlées, donc ne font plus, en tout cas quand je fais des enquêtes sur les journalistes, c'est ce qu'ils racontent, ne peuvent plus faire de recoupement d'informations. Et le numérique offre l'illusion de pouvoir recouper des informations qui finalement arrivent toutes de l'AFP. Voilà, bon, ce qui est assez marrant. Bon, bref, il y a cet effet-là. En tout cas, il y a un sentiment de plus d'objectivité. Voilà, pouvoir lire le journal de New York, ça permet. Aller voir Al Jazeera aussi. Vous voyez, il y a des phénomènes comme ça de recoupement où les personnes se construisent finalement une ligne éditoriale. Et donc, il y a un effet de liberté aussi qui est assez présent. C'est-à-dire que vous sortez de la ligne éditoriale d'un journal qui commence par la page 1 avec un édito, la page 2 avec telle et telle. Vous voyez, une construction d'un journal. Là, on explose complètement le rapport à l'information et à la consultation de l'information. Il y a aussi le fait que la lecture sur la presse numérique, un autre effet, c'est que ça renforce les logiques de curiosité. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes un militant gauchiste et que vous lisez le Figaro dans le métro, ça ne le fait pas. Vous passez pour quelqu'un de droite, ce qui est quand même, qui peut être honorable, tout ce qu'on veut, ce n'est pas le problème ici. Disons, pour mon exemple, c'est pas terrible. Alors que quand vous lisez le Figaro et que vous êtes militant gauchiste sur ces engins-là, vous passez pour quelqu'un d'ouvert qui va recouper ces informations, etc. Alors, vous voyez, ça change complètement le rapport qu'on a, parce qu'on a des pratiques cachées, en fait, avec ces choses-là. Deuxième effet aussi, c'est que ça légitime les légitimes, si vous voulez. On a eu quelques discussions quand on menait l'enquête. Par exemple, ça permet à des universitaires, je ne citerai pas lesquels, de lire l'équipe. C'est la même logique que pour le militant de gauche. C'est-à-dire que si vous lisez l'équipe au laboratoire, au CNRS, c'est pas hyper conseillé. Vaut mieux lire Bourdieu ou un machin comme ça. Mais voilà. Et là, en fait, ça permet d'avoir des pratiques de lecture illégitimes. ce qui est assez intéressant quand même comme effet et comme représentation de soi comme lecteur. Voilà, ça autorise des choses, même si elles doivent rester cachées. Elles restent cachées tout en pouvant être verbalisées. Vous voyez ? C'est-à-dire que ça légitime aussi les légitimités dans le sens où c'est quand même lu sur un objet un peu trivial qu'il faut changer assez fréquemment. Mais ça, c'est à cause de l'obsolescence de ces outils. Ensuite, qu'on constate, c'est que ça favorise aussi, en tout cas sur la lecture numérique, je regarde, sur la lecture de l'information, les pratiques d'évasion. Vous voyez, et l'impression de plus de liberté. C'est-à-dire que les gens passent comme ça d'une information à une autre. Et il y a une espèce de, finalement, de superficialité dans la lecture d'informations où on passe d'un titre à un autre sans forcément chercher les grandes analyses. En tout cas, les lectures immersives, profondes. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est de l'ordre de du comblement des temps vides. Ici, il suffit, si vous avez un smartphone, de penser à ce qu'on fait quand on n'a rien à faire et qu'on va regarder ce qui se passe dans la presse. Normalement, j'ai à peu près au moins 60 à 70% de l'échantillon, vous, qui fait ça. voilà. Donc là, en fait, il y a un moment de vraiment... Il y a côté machinal, quasiment. Et deuxième effet qu'on constate aussi à ce niveau-là, c'est que ça renforce les mécanismes d'addiction. Voilà. On a des gens qui deviennent complètement addicts à l'information de façon machinale pour lire. Et là, on a congruence entre des transformations du champ, de la production de l'information, sous le modèle dont je parlais là, du breaking news. Il faut que l'information soit fréquente, abondante, qu'elle bouge. Il faut penser aux pauvres journalistes là, de BFM sous la pluie, devant un portail où il ne se passe rien, mais il n'a rien à dire, mais il faut quand même dire quelque chose. Quoi. Parce que ce qui importe, c'est la fréquentation et le nombre de clics. Et le nombre de, vous voyez, la monétisation de tous les supports d'information passe maintenant par les logiques qui sont celles du web, qui sont celles de Google, dont je parlais, pour ne citer que Google. Et donc, là, il y a congruence entre une transformation des modes de production de l'information et puis un intérêt pour l'information, une ouverture du champ des possibles et le renforcement de mécanismes d'addiction à l'information. Ce qui fait qu'on a aussi des nouveaux apprentissages qui se mettent en place. On est sur des pratiques de lecture qui sont des pratiques qui ne sont pas stabilisées. D'une part parce que les modèles de production de l'information sous format numérique ne sont pas eux-mêmes stabilisés. Il suffit de penser à tous les changements de format des applications, des sites, etc. Moi, j'ai mené quelques enquêtes sur les responsables de différents grands journaux français. Et ils se posent vraiment des questions sur, d'une part, un, comment stabiliser tout ça et produire l'information dans des formats acceptables, et deux, comment rentabiliser, et trois, comment faire que les grands journalistes arrêtent de se prendre pour des grands journalistes et produisent des news rapides à publier sur Internet. Donc là, on est vraiment sur des pratiques qui sont en train de se stabiliser. Et ce qu'on constate, c'est que les plus efficaces sont les mieux socialisées aux outils informatiques. C'est ce qu'on appelle les technophiles. Les informaticiens, les passionnés de technique, etc., développent vraiment des façons de lire, d'organiser l'information qui sont beaucoup plus puissantes et élaborées que le lecteur lambda qui, au bout d'un moment, a l'impression de papillonner et que finalement, il y a une espèce d'afflux d'informations dans un niveau d'information dégénéralisé, finalement, si je peux me permettre de dire une chose pareille. Ça, c'est sur les pratiques donc, de lecture, en tout cas l'effet du numérique par rapport, bon, on explique ça naturellement beaucoup plus longuement, par rapport aux pratiques traditionnelles de lecture au format papier. Ce qu'on voit aussi, je finirai sur cette dimension, sur ce point, c'est que d'une part, chez les publics les plus, je ne sais pas si on peut dire ordinaires, en tout cas pas chez les technophiles, pas chez les jeunes, voilà, en tout cas pas les moins jeunes, il y a une reproduction des pratiques offline sur les pratiques online. Grosso modo, une fois passé cette espèce d'appel d'air, vous vous recentrez sur un certain nombre de titres, parce que vous apercevez que si vous passez de l'Express au Point, au Figaro, au Monde, à Libération, au Nouvel Obs, vous avez à peu près la même information qui vient de la même pêche AFP et qui est mise en forme légèrement différemment. Donc il y a des pratiques de recentrement. Et puis vous reprenez aussi vos habitudes finalement de lecture, même sur les supports numériques, où vous allez, je ne sais pas, si vous avez pour habitude de lire l'édito en premier, voilà, passez la phase de découverte, vous revenez sur vos pratiques habituelles et vous allez chercher votre édito. Ce qu'on constate, par contre, c'est les plus jeunes, c'est la montée forte des réseaux sociaux et des blogs. Voilà. Donc il y a une espèce de remise en cause, en tout cas par, voilà, par les franges, en tout cas dans nos échantillons, les plus jeunes de notre échantillon, une remise en cause du monopole de la presse dans la production de l'information. Donc, même si les blogs reprennent les informations de la presse, etc., enfin, c'est une production plus individuelle, plus individualisée de l'information. On donne son point de vue, et ça, c'est en train de voilà. Il y a, en tout cas, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent dans le discours des jeunes lecteurs que dans le discours des lecteurs plus âgés. Mais grosso modo, ce qu'on constate, c'est que, c'est ce que je disais au début, on a une économie des goûts et des intérêts qui reste quand même profondément similaire aux pratiques antérieures. Voilà. Donc on peut pas... Il y a des formes de... Il y a des traits où il y a des effets de révolution des pratiques, parce que ce ne sont pas des pratiques neutres, enfin des nouvelles technologies qui sont neutres sur les pratiques, mais elles ne sont pas aussi révolutionnaires que ça. Voilà. C'est la matérialité du social dont je parlais au début. Il faut du temps pour que tout ça change. Au niveau de la littérature, alors c'est la même chose. Donc je pourrais peut-être, je ne vais pas aller plus vite pour autant. En gros, mais c'est encore plus fort. En gros, et c'est ce que je disais au début, l'échantillon, il est structuré comme une enquête statistique sur les pratiques de lecture. Les femmes de notre échantillon lisent plus, les jeunes lisent plus, enfin en tout cas il y a des lectures immersives qui sont plus fréquentes chez les jeunes et chez les personnes retraitées de notre échantillon, moins chez les adultes. Alors il y a plein de raisons pour expliquer tout ça, hein, les contraintes de la vie quotidienne, etc. Les raisons de lire aussi restent similaires, c'est-à-dire ce sont des structures quasi transhistoriques de la lecture, en tout cas bon, on peut se plaire à le croire, et les raisons de lire restent fondamentales, c'est-à-dire le changement du support ne change pas les raisons pour lesquelles on lit un texte sur un support papier ou sur un support écrit. Donc grosso modo, il y a de la lecture de divertissement, il y a de la lecture didactique, il y a de la lecture de salut, il y a de la lecture esthète, il y a des lectures pour s'évader, c'est la lecture de divertissement, il y a de la lecture pour apprendre, c'est de la lecture didactique, il y a la lecture de salut qui pose plus des questions d'ordre existentiel, et puis la lecture esthète qui est le style pour le style ou l'art pour l'art, si vous voulez. Donc on retrouve ces grandes tendances. Point 1. Point 2. Il y a une critique forte des supports numériques. Voilà. En tout cas chez les lecteurs. Pourquoi ? En tout cas de certains supports. Par exemple, c'est toujours ça, j'ai bien fait de le prendre avec moi. Ça, bon, même si on peut difficilement lire un livre sur ça, mais bon, voilà, ou sur une tablette, en fait, il y a des effets de perturbation. Le réseau social, le message d'Intel, le mail qui arrive, etc. etc. Donc ces supports-là perturbent la lecture. Et donc il y a un repli chez un certain nombre de lecteurs sur la liseuse, qui est une forme quasi préhistorique de quand on voit une liseuse de l'outil informatique, de ce genre de choses, ou du portable, ou de la tablette, mais qui, dans sa pureté quasi technologique, on peut dire ça, permet une lecture de se concentrer sur la lecture. Donc en fait, ce qu'on voit chez les grands lecteurs, c'est qu'ils se réorientent vers les liseuses plutôt que vers des supports de type tablette ou autre, parce qu'ils ont besoin de se concentrer pour lire. Ensuite, une fois qu'on dit ça, on peut croire qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Et alors là, ça devient même pour un chercheur, ça devient un peu pénible. C'est-à-dire que, en fait, le rapport au nouveau support censé favoriser l'accès, comme ça, à la lecture, etc., est utilisé pour des causes vraiment extrêmement trivial. Alors, c'est pratique, c'est pas lourd. Ça permet plein de livres, de mettre plein de livres quand on voyage. Voilà, c'est ce genre de choses qui sont mises en avant, en tout cas quand on parle du support de la liseuse. C'est-à-dire que la liseuse, comme vous voyez tout le discours qui entoure le livre numérique, tombe vraiment à plat quand les gens parlent des raisons pour lesquelles ils sont passés au support numérique. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant quasiment que des raisons pratiques. Voilà. De transport, à certains moments. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi le même mécanisme d'appel d'air. C'est-à-dire qu'il y a un effet... En fait, ce sont des supports qui sont qui favorisent les aspirations de réalisation de soi culturelle, si vous voulez, ou en tout cas la bonne volonté culturelle. On a plein de lecteurs qui n'étaient pas des grands lecteurs de romans, plutôt des technophiles, etc., mais qui vont télécharger 3000 romans sur leur ordinateur et en lire 0,5. Voilà. Ou on télécharge toute la poésie française et on s'arrête aux trois premières phrases du bateau ivre. J'en sais rien, moi, bon, n'importe lequel. Mais on a beaucoup de... Vous voyez, tout ça est dans la bonne intention et dans des intentions de rattrapage, finalement, culturel pour beaucoup. C'est pour ça que je parle, enfin voilà, on retrouve vraiment les mêmes tendances, quoi. Vous voyez, les nouveaux supports, les nouvelles qu'offre la lecture numérique ne sont pas suffisantes pour remodeler. Alors on m'a dit de ne pas parler en sociologue ou pas trop, mais je vais quand même tenter des habitudes culturelles. Voilà. C'est-à-dire des dispositions qui prennent leurs origines dans la socialisation primaire, dans l'enfance, etc. Voilà, il faut du temps pour que ces pratiques se modifient, et elles se modifient extrêmement lentement. Troisième effet, c'est un petit peu comme pour la presse, il y a aussi des descriptions de... Comment dire, si je suis méchant avec mes enquêtés, c'est quasiment de la jubilation infantile. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de satisfaction immédiate. Un avion s'écrase, vous allez voir, tac, 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 c'est un acte, vous allez voir 5 journaux. D'accord ? Là, c'est en lecture, en caractère littéraire, c'est un peu la même chose. Les personnes sont contentes parce que, d'un seul coup, le champ, vous voyez, des possibles s'ouvre et vous avez accès, vous voyez, à tout. Et aussi, il est minuit, ça c'est un exemple que je crois qu'on l'a identifié en extrait d'entretien, il est minuit, vous voulez acheter un livre, bon, vous pouvez l'acheter le lendemain, mais vous êtes super content parce que vous l'avez en 2 minutes sur votre liseuse via Amazon. Bon, voilà, c'est des choses qui sont l'acquisition instantanée, voilà, c'est pour ça que je suis un peu méchant avec les enquêtés sous cet aspect-là. Chez les grands lecteurs, ce qu'on constate aussi, c'est que c'est quand même des profils des personnes qui ont des profils un peu particuliers par rapport à l'ensemble du lectorat, en tout cas dans la population française. Et ce sont aussi des gens qui sont assez fortement structurés par la culture légitime. Et donc, le livre reste l'objet. Reste un bien culturel important et de valeur. D'accord ? On a quelques cas, mais c'est vraiment des technophiles très pointus, donc vraiment des cas assez rares dans l'échantillon, ça doit être une ou deux personnes, qui ont oublié le livre papier. Vous voyez ? Mais la plupart restent très structurés par l'importance du livre, de l'objet, du bel objet. Voilà. Et donc, la pratique de lecture, en fait, fait que le tout venant, vous voyez, ce qu'on lit comme ça, est passé en format numérique, alors que l'objet de valeur est maintenu au format papier, et lu au format papier. Surtout, ce qu'on voit, c'est que la lecture numérique, en tout cas le livre numérique, il a une fonction, c'est-à-dire qu'il répond parfaitement à une fonction sociale de la lecture, on va dire, et imparfaitement à une autre. Il répond très parfaitement à la fonction pratique. D'accord ? C'est ce que je disais. Vous pouvez partir en vacances avec 50 romans dans une liseuse. J'ai 5 minutes. Très bien. Ça devrait aller. Par contre, la fonction de représentation du livre, de la bibliothèque, naturellement, au format numérique, c'est relativement insatisfaisant. Voilà. Donc là, en fait, on voit des pratiques différenciées en fonction, naturellement, de l'importance qu'a le livre en tant qu'objet dans un intérieur, de comment on présente sa bibliothèque, de quel livre on met en avant, pas en avant. Il y a aussi un bousculement, parce que les formats sont quand même très, très fermés, et les pratiques d'échange donc sont pas possibles. Donc il y a toutes ces fonctions sociales aussi qui sont un peu altérées dans la lecture numérique. Ensuite, ce que je veux dire, ce qu'on veut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de, que tout revient pas au même. Ce qu'on constate, un peu comme pour la presse, c'est qu'il y a des transformations. Ces transformations, notamment, elles sont dans le domaine de la prescription. C'est là qu'en fait, on voit les plus grands effets. Voilà. Sur les lectures, on a des phénomènes qui sont habituels, les supports changent, bon, c'est un peu plus pratique, mais on retrouve grosso modo des discours qui sont similaires à des enquêtes qu'on aurait pu faire sur format papier, à part qu'il y a quelques modifications, mais qui ne sont pas des modifications de fond, en tout cas aussi révolutionnaires qu'on voudrait le faire croire. En revanche, sur les pratiques de prescription des ouvrages, on voit une perte de vitesse de l'entourage, des bibliothèques, des clubs de lecture, etc., au profit des relations plus virtuelles. D'une part, que ce soit donc sur Facebook, sur les forums, etc., etc., qui deviennent des prescripteurs importants, mais aussi par ces engins absolument démoniaques basés sur ce qu'on appelle en statistique le data mining, que sont les prescriptions, par exemple, extrêmement puissantes d'Amazon. Vous voyez ? Qui vous conseille, quand vous allez sur Amazon, un ensemble de livres et de lectures, et qui sont des prescriptions extrêmement puissantes parce qu'elles sont ajustées aux offres. Donc il y a une concurrence forte, pour, en tout cas pour une partie des gens qui sont ici, de la part des entreprises du web à ce niveau-là. Et donc là, on voit vraiment des modifications à ce niveau-là. Et ce qu'on constate, et ce qu'on constate, c'est le même effet. Il y a un temps d'adaptation. Vous voyez, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est mon lecteur qui lit beaucoup, mais pas beaucoup la littérature. Il s'achète une liseuse, il télécharge 3000 ouvrages, essaye d'en lire un, deux, et ensuite revient passer un certain temps à ses pratiques traditionnelles de lecture. Voilà. Et donc on a beaucoup ces mécanismes, comme dans la presse. Voilà. Hop, engouement, et on revient sur les pratiques habituelles de lecture. Et ensuite, donc, ce qu'on peut dire, c'est que, et je finirai sur ça, pour rassurer Christophe, c'est que l'enseignement, alors on voit, donc notre idée, c'est pas de dire que tout revient au même, hein, on voit qu'il y a des mouvements, on voit qu'il y a des choses qui bougent, mais ça bouge pas autant que ce qu'on espérerait, mais c'est que la lecture numérique, en fait, elle a essentiellement, en tout cas la lecture sur support numérique, elle a essentiellement des effets à un niveau institutionnel, plus que quand dans les pratiques des lecteurs. Institutionnel, c'est sur les modes de production de l'information, par exemple. Et donc cette structuration de la lecture chez les lecteurs. Institutionnelle au sens où la chaîne du livre, de production du livre, est brouillée par de nouveaux acteurs, de nouveaux modes de prescription, etc. Mais identique, pareil, les pratiques de lecture des lecteurs restent fondamentalement inchangées. Donc l'effet majeur à l'heure actuelle, bon, ça ne veut pas dire que ça ne présage pas de l'avenir, hein, naturellement, mais en tout cas, tel que nous, et dans le discours des personnes qu'on a pu interviewer, tel que nous, on a pu le repérer, sont essentiellement d'ordre macro, macro-social, sont plutôt d'ordre institutionnel, et donc d'effet de contexte, plus que de révolution intime des pratiques. Voilà.
Merci. Merci, Xavier. Donc, mutation technologique, permanence du social. J'imagine, je me trompe peut-être, que ton intervention suscite peut-être des questions, sachant que tu as laissé évidemment de côté un certain nombre d'éléments qui figureront dans le rapport. Est-ce que vous avez des questions à poser à Xavier Zunigo ? Ouais.
Bonjour, alors en fait c'est une question, est-ce que vos grands lecteurs, quand vous les avez interviewés, est-ce qu'ils vous ont fait part d'une volonté, une volonté pédagogique d'apprendre à utiliser l'outil pour mieux ensuite utiliser cette nouvelle technique de lecture Et donc, éviter de plaquer leur lecture, enfin, dire papier, sur la lecture numérique. Est-ce que ça a été une question de votre interview, de vos interviews, de vos entretiens? Est-ce que ces grands lecteurs ont soif, en fait, d'apprendre de nouvelles techniques de lecture pour justement, en fait, se moderniser et apprendre des outils pour mieux l'utiliser?
Ce qu'on observe, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est sur un, si vous voulez, on peut distribuer nos enquêtés sur un axe technophile nul, technophile expert. Et ces nouvelles pratiques, ces apprentissages sont, en tout cas, la volonté d'apprentissage, l'apprentissage réel est beaucoup plus présent plus on monte dans l'échelle de la technophilie, quoi, si on peut dire ça. Chez le lecteur ordinaire, cette volonté est assez rare. Voilà, parce qu'elle est, je pense qu'elle se déçoit elle-même, parce qu'elle est autodidacte dans la plupart du temps, et les technologies sont quand même un peu... quand je parle de technophiles, c'est de gens qui vont programmer des logiciels pour aller observer l'information, tenir à jour leur bibliothèque. Enfin, c'est des gens très, très à la pointe des technologies informatiques. Donc on voit que non, il n'y a pas cette volonté-là. Et ensuite, je pense qu'il y a quand même, on a mis ça en exergue, parce que bon, mais tout le monde doit connaître ça, c'est que le support papier est quand même, vous savez, il y a une citation qui dit que si ça avait été inventé après les tablettes, on aurait trouvé que c'était un support révolutionnaire, parce qu'il est pratique, il est permanent, il est etc. Et en fait, ces nouvelles façons ce qu'on appelle les nouvelles façons de lire, d'après moi, sont possibles sur les supports papier, qui est un support qui est très performant. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que ici, si j'ai bien compris, ils reviennent au format papier. Bon, voilà. Donc, donc en tout cas, cette volonté, elle est inégalement distribuée. Voilà. Et très liée à l'intérêt pour les nouvelles technologies, pour l'informatique, qui sont quand même des technologies qui fatiguent 80% des gens. La plupart des gens s'en fichent.
Je voudrais revenir sur le technophile qui décharge 3000 romans qu'il ne va pas lire. J'avais deux hypothèses que je vous soumets. La première, c'est l'effet caverne d'Ali Baba, tout a l'air possible, donc pourquoi s'arrêter là? Une espèce de frénésie qui peut se prendre en fonction de l'offre et de la facilité qui vous est proposée. Et la deuxième hypothèse, c'est le fait qu'un livre, dans nos représentations habituelles, est rarement seul et souvent un élément d'un ensemble documentaire qu'on pourrait appeler une bibliothèque, y compris privée. Est-ce que ce n'est pas aussi la volonté plus ou moins consciente de recréer sa propre bibliothèque privée?
Oui, les cavernes d'Ali Baba, c'est une jolie expression. Il faudrait voir qui sont les 40 voleurs. Oui, il y a un effet... il y a un effet de... Comment dire? Une des difficultés dans l'enquête, bon, j'en ai pas parlé, c'est que les discours officiels sur la lecture numérique sont appropriés par les enquêtés, finalement. Donc c'est assez dur, en fait, de devenir à la réalité des pratiques, parce que les discours sont dans la tête des gens, sur c'est possible, etc. Donc il y a tout un discours aussi d'escorte sur c'est-à-dire la démocratisation, l'accès aux biens culturels, les nouvelles façons de lire, tout ça est présent dans les discours. Il y a aussi un discours très fort la révolution technique que nous vivons. Il suffit de penser, moi, quand j'étais jeune chercheur, j'étais très branché sur la surveillance d'Internet. Enfin, pas d'Internet au sens... C'est-à-dire que j'avais un logiciel là, qui était très bien, qui me permettait de surveiller 400 sites, dont tous ceux de la sociologie française et internationale, qui étaient très pratiques. J'ai assisté à un truc très bizarre, c'est l'arrivée de l'iPhone. Alors moi, j'ai eu un téléphone portable très tard, parce que j'étais dans mon bureau du CNRS, j'avais pas besoin de téléphone portable. Donc connaissais pas ces engins-là, ou de très loin. Je trouvais ça bizarre de pouvoir être joint tout le temps. Bon, ça peut être gênant dans certaines situations. Et je suis arrivé à l'arrivée sur Terre d'un nouveau demi-dieu, voire d'un nouveau dieu, qui s'appelle l'iPhone. Voilà. C'est-à-dire que je suivais les sites de technologiques. Et puis un jour, les sites technologiques, mais après la presse, se sont mis à s'exciter et l'iPhone arrivait sur Terre. Vous voyez ? Mais c'est vraiment, c'était une arrivée, c'était Dieu qui descendait du ciel. Hein. Moi, j'ai vécu ça de... Bon, je me suis après intéressé à cet engin. Ce que je veux dire par là de façon triviale, c'est quand même qu'il y a un discours extrêmement fort et performatif sur, sur les outils. Et les gens font sien aussi ce discours-là de l'utilité. Il y avait une pub de Samsung incroyable où... Ou c'était quoi ? C'était pour leur dernier smartphone où votre identité, votre existence était liée à cet engin-là. Quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ça, ces différents facteurs, ces forces sociales, commerciales finalement, participent d'un esprit du temps, si je deviens heideggerien, et favorisent une espèce de moulimie finalement. Vous voyez, c'est quasiment la caverne d'Ali Baba, je pense qu'elle n'est même pas, pour une bonne partie des lecteurs, à part les gens très lettrés, elle n'est même pas pensée comme, comme un trésor. Vous voyez ? C'est-à-dire, c'est un truc qu'on remplit parce qu'on y a accès. Parce que quand on était petit, bah, on n'a pas lu ça et qu'il faut lire Baudelaire. Et parce que voilà, et bah, là, j'ai accès à Baudelaire gratuitement, sans l'acheter, parce que c'est quand même... Enfin, disons que je trouve que la métaphore est borne. À part que la caverne n'est pas remplie d'un trésor chez beaucoup de lecteurs. C'est ça qui est assez surprenant. Et alors ensuite, je pense qu'il y a une différence. Il y a une notion de bibliothèque. Alors, c'est vrai que ça, on n'a pas trop. C'est vrai que ça, ouais, on aurait pu creuser cet aspect-là. Mais c'est que ce qui est sur cet engin-là, mes 3000 romans, n'est pas pensé comme une bibliothèque. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pensé comme un... Trivialement, c'est un stock, si vous voulez. C'est la différence entre une bibliothèque et un conteneur d'Amazon, si vous voulez. Voilà. Bon. C'est-à-dire, dans les discours, il n'y a pas un discours... Il y a un discours d'accumulation primitive des biens culturels, en fait. C'est ça qui est là. Et il y a la potentialité. C'est un petit peu comme... en fait, c'est presque comme un chercheur. C'est-à-dire, moi, j'ai des amis qui vont venir chez moi, ils vont me dire, qu'est-ce que tu fais avec tous ces bouquins ? Bon, effectivement, je passe pas ma vie à lire tous ces bouquins de sociaux. En plus, il y en a plein qui sont pas intéressants. Mais c'est une logique, de jouer sociologue branché, mais ils savent que j'ai raison, c'est une logique de bibliothèque. C'est-à-dire, je reconstruis chez moi une bibliothèque de sociaux, si vous voulez. C'est-à-dire que quand je travaille, il me faut le livre X ou Y. Bon, ben là, c'est un petit peu pareil avec le livre. Vous empilez. Bien que ça soit accessible sur Internet, vous empilez, vous stockez dans votre ordinateur, votre disque dur, un ensemble de biens culturels qui sont là à disposition sans forcément avoir usage. C'est-à-dire, c'est pas la même chose qu'une bibliothèque au sens physique. Et notamment parce qu'il manque, je pense, cet élément structurant et fort. On peut lire, par exemple, il y a des beaux passages dans Histoire de lecteur de Gérard Mauger, Pudal et Poliac sur les stratégies de présentation et d'usage des bibliothèques. Et le numérique, il n'y a pas ça. Donc c'est vrai, mais c'est une autre forme de bibliothèque, finalement, je pense.
Il y a peut-être le choix de temps en temps. De temps en temps, ça s'empile malgré ses clients. Mmh. Et ma première question était, est-ce qu'ils dépensent quelque chose ou c'est tout vient gratuit ? Alors, deuxième question, et j'enchaîne sur ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a une organisation ou pas dans cet ensemble, dans ces stocks ? Est-ce que c'est cumulé ou accumulé Je me suis toujours intéressée au système d'information, au catalogue. On ne va pas cataloguer chacun pour soi, bien entendu. Mais comment ces gens-là, ou les lecteurs, s'y retrouvent ? Est-ce que c'est la simple frappe d'un mot
classique qui leur permet de se retrouver dans ces chaos organisés. Et dernière question, est-ce qu'ils reviennent vers ces lectures de leur stock ou pas? Parce que vous avez dit qu'ils accumulent sans lire. C'est normal, on accumule tous, on n'a pas le temps de traiter des informations qui nous arrivent, quelle que soit leur origine. Mais on a besoin de temps en temps de rechercher quelque chose, y compris, je pense, pour la lecture. Mmh. Est-ce qu'il y avait une question sur la deuxième lecture?
Alors, c'est vrai que là, ça fait penser à quelque chose que je n'ai pas parlé. L'effet, aussi bien pour les lectures d'information que pour la lecture à caractère littéraire, un des effets importants, c'est l'imposition d'une idée de la gratuité. Voilà. C'est-à-dire que l'accès à l'information est gratuit, l'accès aux livres devient potentiellement gratuit. Notamment, il y a beaucoup de discours de critique du livre numérique chez les grands lecteurs qui trouvent que des livres numériques plus chers que des formats papier ou un pen moins cher qu'un format papier, c'est réellement abusé. Et ça ne favorise pas d'ailleurs l'adoption de ce format puisqu'il y a une différence de prix qui est modique ou même qui parfois est plus élevée. Donc il y a la notion de gratuité qui s'impose en fait avec la lecture numérique. Plus aussi, bon là une des critiques, mais ça je l'ai souligné, sur le fait que ce sont des formats qui sont des formats fermés. C'est-à-dire si vous achetez chez Amazon, vous êtes chez Amazon. Si vous achetez chez la Fnac, vous êtes chez la Fnac. Et vous pouvez vous passer les livres, etc. etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont critiquées. Et puis c'est un effet fort de la lecture numérique. Ensuite, sur les pratiques, sur les pratiques de stockage, oui, bah, ça dépend du caractère obsessionnel de l'enquêté que vous avez en face de vous. Mais là, nous, on n'a pas évalué ça. Sur les grands stocks, moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, quand j'ai eu accès au disque, enfin, à l'interface, là, à l'ordinateur, plus simplement. Oui, il y a des pratiques naturellement de tri, de stock, etc., mais qui restent des pratiques très très classiques hein, de tri. On n'est pas dans un tri très très élaboré. Il peut y avoir des pratiques fourre-tout. Ensuite, il y a quand même un truc qui marche bien, c'est tout ce qui est moteur de recherche. Donc, vous retrouvez quand même assez rapidement vos livres. Enfin, disons que les technologies sont quand même bien pensées et pratiques. Donc, elles font l'économie de coûteuse de pratiques de tri pour se retrouver dans la masse d'informations. Ensuite, sur la lecture en elle-même, ce qu'on avait, c'était vraiment c'est comme si on était, en tout cas, si ces technologies sont appelées à se développer, à se populariser, ou si on revient vers le format papier, ce qui est quand même un peu probable, on va être dans une des formes de cohabitation. Ce qu'on a, c'est qu'il y a vraiment des stratégies de... Bon, je pirate, ça c'est un grand lecteur, je pirate le livre, il sort en poche, je l'achète parce que quand même, il faut aider l'auteur. Bon, et là, ils peuvent le relire éventuellement. Mais sinon, les lectures sont souvent des lectures, un coup. Quoi. Une fois que vous avez lu telle œuvre, vous pouvez la relire, mais des années plus tard. Là, on n'a pas le recul historique pour pouvoir apprécier ça. Et ensuite aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a aussi c'est les grands lecteurs, en tout cas de littérature à caractère littéraire, sont, comme je disais, très structurés par la culture lettrée et l'importance conférée à l'objet livre, et donc ont des stratégies de lecture différenciées. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le tout venant... on avait un prof, par exemple, il était très content d'avoir une superbe bibliothèque, mais très content d'avoir du numérique, parce que tous ces bouquins qui s'entassaient chez lui, vous voyez, à lire pour ses enseignements, il était bien content de les mettre dans un ordinateur plutôt que dans son deux pièces où il n'avait pas beaucoup de place. Vous voyez. Donc il y a vraiment des stratégies comme ça d'utilisation du support, et donc de lecture et de reconsultation. Donc par exemple, ce monsieur, dans sa stratégie de lecture numérique, revenait tous les ans sur ses lectures au format numérique pour des raisons professionnelles. Voilà. Le professionnel, en fait, il guide souvent les pratiques. On l'a remarqué aussi dans la lecture de la presse, parce qu'on a fait des entretiens avec des membres de cabinet, d'hommes politiques, où la lecture compulsionnelle de la presse est une qualité professionnelle. Et donc, ils lisent de façon frénétique et apprécient particulièrement le support parce qu'il permet de répondre à des attentes professionnelles. Donc voilà, on a eu quasiment aucun... C'est un support où il y a un discours d'escorte enchanteur sur les potentialités de la pratique et en même temps, on a eu très peu de discours enchantés de la lecture sur la lecture numérique. Oui. C'est-à-dire qu'on va nous parler de... Bon, je vais sortir des choses, mais c'est ce que sortent les enquêtés à ces bateaux. C'est-à-dire, voilà, la matérialité du livre, l'odeur du papier, lire, relire Proust sur l'édition de son enfance. Vous voyez ce genre de choses-là bon, eh ben, la lecture numérique, elle apporte pas ça, c'est une technologie qui est une technologie froide, c'est une technologie pratique, c'est une technologie froide et c'est donc une technologie qui favorise pas le discours enchanté des enquêteurs sur, des enquêtés et des enquêteurs aussi par conséquent sur la pratique de lecture. Bon là j'ai fait des digressions par rapport à vos questions. Mais,
Je suis désolé, hein, je vois qu'il y avait d'autres questions, mais on risque de prendre un petit peu de retard avec notre programme. Donc, la synthèse de l'enquête sera bientôt disponible dans un premier temps en ligne, comme je le disais. Il y aura d'autres occasions de restitution publique. Hein, donc, voilà. Merci en tout cas, merci Xavier Zunigo. Donc, rendez-vous est pris pour vous lire en ligne et ensuite sur papier, parce qu'effectivement, on a du mal à se passer du papier. Et on va passer donc à un autre type de discours, donc intégrer la nature à l'expérience de la bibliothèque avec Katrina Calda, qui va prendre la suite et qui est élève conservatrice du DCB 23. Diplôme de conservateur des bibliothèques.